On s'entend que la crise que l'on vit chambarde notre vie familiale, hein? Je veux dire, est-ce qu'elle a été déjà tant chambardée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on vit des situations qu'on n'a jamais vécues. Et puis là, on s'est dit, tiens, on va prendre quelques minutes pour regarder un petit peu la situation des familles qui vivent une garde partagée. On va se tourner vers l'avocate qui est spécialisée en droit de la famille, Maître Sylvie Schirm, pour le faire. Bonjour, Maître Schirm.
Bonjour.
Donnez-nous les deux ou trois situations là les plus courantes que vous confrontez depuis le début de la crise là, les deux trois scénarios là que vous avez vus là puis qui soulèvent certaines questions là.
Bon, le parent qui veut pas retourner les enfants parce qu'on a dit qu'on doit pas quitter notre région, par exemple. Et aujourd'hui, on a vu d'autres régions qui sont plus restreintes. Alors ça peut être une demande. L'autre, c'est surtout, qu'est-ce qu'on voit le plus, c'est les gens qui sont un parent qui est inquiet, anxieux, que l'autre parent peut exposer les enfants au coronavirus. Et par différents moyens, par exemple, parce qu'on vit dans une famille recomposée. Alors, est-ce que les enfants de la nouvelle conjointe, eux, quand ils font une garde partagée, vous savez, c'est un cycle. Est-ce que eux, ces enfants-là, quand ils font une garde partagée, est-ce qu'on respecte les consignes avec l'autre parent qui est en garde partagée? Alors, c'est des inquiétudes. Par exemple, j'ai un conjoint qui travaille dans le milieu de la santé. Est-ce qu'on va exposer mes enfants? Ou est-ce que j'ai un parent qui trouve que c'est pas si grave que ça, puis les consignes, c'est un peu exagéré, puis voyons donc, on va passer travers, pourquoi on fait tout ce bruit-là, et qui ne pense pas que c'est nécessaire de respecter les consignes, donc on va se promener avec les enfants, on va aller faire visiter les enfants, les grands-parents, ce qui est encore pire, ou des choses comme ça. Alors, il y a ces niveaux-là, je pense qu'il y a évidemment beaucoup d'anxiété, et il y a des craintes, mais il y a des craintes qui sont fondée, puis d'autres craintes, des fois, c'est subjectif, mais il faut avoir plus que juste une crainte subjective, par exemple, pour s'adresser au tribunal. Alors, les difficultés, c'est autour de ces genres de craintes ou d'anxiété-là et de l'échange des enfants. On les échange comment? Est-ce que je dois voyager pour les amener à l'autre parent? Est-ce que je ne veux pas quitter chez nous? On a eu un dossier, un jugement qui était rendu la semaine, vendredi. On l'attendait tous en droit de la famille parce qu'on a besoin de guides, hein, nous, pour conseiller nos clients et nos clientes. Puis ici, qu'est-ce qu'on a dit? La juge April a dit, écoutez, c'est pas une urgence. Et si, à moins que vous fassiez une preuve là qu'il y a vraiment une crainte à la santé de l'enfant, le fait de vouloir garder votre enfant en confinement n'est pas un motif suffisant pour empêcher à l'enfant de voir l'autre parent. Alors, c'est un peu qu'est-ce qu'on est venu nous dire. Il faut quand même avoir des très bonnes raisons. Je pense qu'un cas qui sera qu'un juge peut-être ordonnerait la suspension de l'accès ou le contact, c'est quelqu'un qui refuse de respecter les consignes ou qui pense que tout ça, c'est une théorie de complot, etc.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps? D'abord, juste pour dire, Maître Schirm, là, parce que vous l'avez soulevé, là, tout à l'heure, au point de presse, le docteur Arruda a dit les parents qui ont un enfant en garde partagée dans deux différentes régions, là, peuvent se déplacer d'un endroit à l'autre. Ça fait partie des exceptions. Okay? Le docteur Arruda l'a bien dit. Donc, pour ce qui est de la garde partagée, si ça vous oblige à vous promener d'une région à l'autre, là, malgré les contrôles policiers, vous avez le droit de le faire. Donc, ça, c'est correct. Mais j'allais vous dire, comment on... Justement, la situation que vous avez soulevée, comment on gère ça, là?
Le parent qui ne respecte pas les consignes, à ce moment-là... Puis souvent... Aujourd'hui, les parents, ils se parlent par texto, courriel, etc. Alors, quelqu'un qui a cette attitude-là et dont j'ai la preuve, par exemple, j'ai un texto, là, je vous donne l'exemple du père qui dit « moi, je n'écoute rien, puis c'est pas vrai, puis je fais ma vie, etc. » Ça, ce sera suffisant pour aller à la cour et faire une demande d'urgence. Maintenant, les tribunaux sont restreints aussi. Hein? Alors, il faut vraiment avoir une vraie demande d'urgence. Mais un cas comme ça, où un parent qui refuse de respecter les consignes et met la sécurité de l'enfant en danger à cause de ce comportement-là et de façon volontaire, à ce moment-là, à mon avis, un tribunal va définitivement intervenir pour restreindre l'accès ou annuler l'accès tant que cette crise-là n'est pas passée.
Okay.
Alors, il se peut qu'un parent doit se rendre au tribunal, mais on essaie d'éviter ça. On travaille tous très fort en droit de la famille pour éviter d'aller à la cour de quelque façon que ce soit. On le faisait même avant. la crise, mais là, on travaille encore plus avec plus d'acharnement pour tenter de trouver des solutions, guider nos clients, se parler entre nous. Il y a certains cas où la médiation est possible, c'est pas mauvais, mais où les avocats, des fois, entre eux, vont trouver des solutions. Il faut quand même tenter d'éviter la cour par tous les moyens possibles.
Bon, là, je vais lancer les lignes, 790-9850 ou encore par texto 98985, courriel Drainville à commercial 985fm.ca. Si vous avez une question pour Maître Schirm, on parle vraiment là, de la question de la famille et de la garde partagée, OK? On se limite à ça, là. Appelez. Et puis, Maître Schirm est avec nous pour les prochaines minutes. Si vous n'avez pas de questions, mais garde, on va continuer l'entrevue, puis on va dire bonjour à Maître Schirm. Mais si vous avez des questionnements, là, il y a quelque chose qui vous travaille, puis vous attendiez juste l'occasion de pouvoir poser la question à une avocate, bien là, vous en avez une au bout du fil. Alors, 790-9850. Vous avez parlé tout à l'heure, il y a un instant, de médiation.
Oui.
J'allais vous dire tout à l'heure, quand vous nous soumettiez les différents problèmes, là, les cas problématiques, y a-tu moyen dans la majorité des cas de s'entendre les deux parents, de s'asseoir puis de régler ça par la discussion, par le dialogue?
80% des dossiers se règlent hors cours. Alors, en général. Alors, c'est certain que la médiation est une possibilité. Les médiateurs font ça par visioconférence. Ils sont disponibles. C'est possible. C'est une façon à privilégier avant d'aller à la cour ou sinon parler entre avocats. Mais c'est sûr qu'il faut faire cette tentative-là. Et la majorité des gens sont capables de le faire. Il y a des cas extrêmes. Par exemple, le cas où est-ce qu'on a vu ce jugement-là. Monsieur est allé à la cour. Bon, parce qu'il craignait pour ses enfants. Puis peut-être sa crainte était légitime, compréhensive. Mais ça ne veut pas dire que cette crainte est suffisante pour annuler les contacts. Puis je pense qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que les enfants vivent une anxiété incroyable dans les moments qu'on parle. Et est-ce qu'on va leur donner encore plus d'anxiété, le mettre plus sur leurs épaules en faisant un conflit entre parents, en se chicaner pour la question des droits d'accès? Si moi, je suis un parent et je pense que je pourrais être exposé à ce virus-là, est-ce que je vais mettre mes enfants à risque? Pourquoi pas les laisser chez l'autre conjointe ou la conjointe, peu importe? Pourquoi pas prendre les mesures? Pourquoi est-ce que je veux, moi, nuire à mes enfants? Alors, parfois, les gens restent accrochés sur un jugement. Bien, j'ai la garde partagée ou j'ai tant de temps, j'ai tel horaire, je veux absolument tenir parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs enfants. C'est compréhensible, mais ce n'est pas le temps d'agir de cette façon-là. Il faut laisser de côté ces rancunes. Il faut laisser de côté tout ça. Il faut penser à vos enfants qui souffrent déjà. Imaginez-vous, ils ne sont pas à l'école, ils ne sont pas dans leurs activités, ils sont à la maison, ils ne savent pas qu'est-ce qui s'en vient. Leurs parents sont anxieux. Puis par-dessus ça, on va faire un chicane familial en question de garde. Il faut vraiment, là, je fais un appel à tout le monde, au gros bon sens, puis à revenir là, à qu'est-ce qui est important dans la vie. Cette crise-là nous fait voir qu'est-ce qui est vraiment, c'est quoi nos vraies valeurs. Mais c'est ça, c'est de protéger nos enfants, pas juste du virus, là, mais protéger du conflit aussi.
Alors là, j'ai quelques questions pour vous, Maître Schirm.
Oui.
D'abord, une auditrice, si je comprends bien, me dit « Plusieurs maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants ont mis en place des mesures de prévention pour prévenir la propagation. Okay? Qu'advient-il des droits de visite quand la maison d'hébergement tente d'éviter les allées et venues pour protéger les intervenantes et les autres résidentes? »
Bon, mais ça dépend. Est-ce qu'il y a un jugement en place? La question à se poser, est-ce qu'il y a un jugement? S'il y a un jugement, techniquement, il faut le respecter. Si je dois modifier, parce que ça, c'est un cas de demande de modification en disant, écoutez, je dois rester dans la maison d'hébergement, c'est un cas de violence conjugale. Est-ce que le parent, qui est probablement le père, là, est-ce que le père a des droits d'accès ou non? S'il n'y en a pas, bien, à ce moment-là, on ne contrevient pas à un jugement. Mais s'il y a un jugement en place, il faut le modifier si nécessaire ou tenter de négocier avec l'autre partie pour suspendre ça en expliquant les circonstances. Parce que c'est sûr qu'on veut protéger la maison d'hébergement et les résidentes et tout le monde qui est là. Alors, ce sera quelque chose à voir s'il y a un jugement ou non. Ça change la donne s'il y a un jugement.
OK. Il arrive quoi avec la pension alimentaire, Maître Schirm?
Bon,
ça, c'est une
autre question.
Ça se pose,
alors,
ça, là.
Bon, alors, la majorité des gens on paye la pension alimentaire à travers le ministère du Revenu. Quand on est salarié, hein, l'employeur envoie la pension au ministère du Revenu, le ministère du Revenu envoie les chèques aux créanciers alimentaires, aux parents qui reçoivent la pension, et ça, c'est en place depuis 1997. C'est la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires. Alors, ça se fait très bien. Si c'est la mère, bien, elle reçoit la pension le premier 15 à chaque mois, ou le père, peu importe, et l'autre partie, c'est, bien, j'ai pas besoin de m'inquiéter, la pension est enlevée de ma paye. Mais là, si je n'ai plus de salaire et je n'ai plus de paye, à ce moment-là, il n'y a plus d'argent qui est envoyé au ministère du Revenu, donc la personne qui reçoit la pension ne le recevra plus.
Exactement.
Alors, la question à se poser, c'est comment je vais contribuer à mes enfants? Parce qu'il ne faut pas penser, c'est un chèque que j'envoie à mon ex, il faut penser, c'est de l'argent pour mes enfants, pour le tous les jours. Ça, c'est la pension alimentaire de base, c'est la nourriture, le logement, les vêtements, puis les activités de base, là, quelque chose vraiment. C'est pas des gros montants qui sont versés, et surtout, encore moins en garde partagée. Alors, à ce moment-là, si je suis un parent responsable, bien, je vais regarder, j'ai-tu un peu d'argent dans mon compte de banque? J'ai-tu d'autres moyens financiers? Si je peux pas payer le montant total, est-ce que je peux au moins envoyer quelque chose? Parce qu'il faut pas oublier que même si j'ai plus d'argent ou j'ai plus de revenus, si j'ai des ressources ou j'ai fait exprès de ne pas payer la pension, quand tout ça va être fini, puis qu'on va retourner à la cour pour régler cette question-là, les tribunaux vont regarder ça très sérieusement. Le comportement des gens dans un moment de crise pour leurs enfants va être très, très jugé très sévèrement par les tribunaux si un parent fait exprès pour éviter de payer quoi que ce soit. Alors, il faut penser à ça, puis il faut essayer de trouver des ententes. Il se peut qu'à un moment donné, il y a un qui gagne des revenus, parce que peu importe, parce qu'il occupe une poste pour lequel il est toujours payé, il travaille, et l'autre a zéro. Mais peut-être à ce moment-là, c'est la personne qui gagne des revenus qui doit verser la pension à l'autre. Mais il faut quand même. Et maintenant, les tables, là, tous les montants de pension sont sur l'Internet. Il n'y a pas d'excuse. On sait exactement qu'est-ce qu'on doit payer si on est salarié. C'est vraiment pas compliqué. Alors, il faut quand même contribuer aux enfants. Mais c'est sûr que s'il n'y a plus de salaire, puis le gouvernement n'a plus de retenue, bien, il n'y a plus de chèque qui est envoyé de l'autre côté.
Maître Chim, je vais vous regarder, OK, parce que j'ai beaucoup de questions qui rentrent, là, qui sont rentrées dans la dernière minute.
Oui.
Et je pense que c'est des questions qui sont importantes. Alors, restez avec nous. On va aller à la pause. Et Mélanie, notamment, tu m'as écrit un courriel, là. On va répondre à votre question dans un instant. OK, alors Mélissa qui m'écrit, là, l'ex habite à Saint-Donat, moi j'habite à Sainte-Martine, Saint-Donat pourrait être mis en confinement, qu'est-ce qui arrive? Je vous l'ai dit, Mélissa, il y a un instant, là, s'il est question de garde partagée, vous pouvez vous déplacer d'un territoire à l'autre, OK? Ça fait partie des exceptions. Bon, je vais y aller avec une série de courriels, Maître Chirme, OK?
Oui.
Josiane qui me dit, bon, que faire lorsqu'un enfant est en garde partagée? Et que le père et la belle-mère travaillent dans des services essentiels, donc plus à risque. Est-ce que la mère a des pouvoirs légaux? C'est Josiane qui pose la question.
OK, il n'y a pas une question de pouvoir, là. Tout le monde a l'autorité parentale. Les deux parents ont l'autorité parentale. Alors, je sais qu'il y a eu plusieurs questions des gens qui ont des ex qui travaillent dans le milieu de la santé. Moi, je vous dirais que tant qu'on ne peut pas prouver que ces gens-là ne respectent pas les consignes, par exemple, je sais qu'ils arrivent chez eux, ils vont se déshabiller à l'extérieur, ils vont se laver les mains, ils vont même pas partager une salle de bain, ils vont tout faire, parce qu'ils travaillent dans le milieu de la santé, ils savent c'est quoi les consignes, pour éviter de contaminer le reste de la famille. Alors, si la personne est responsable et suit toutes ces consignes-là, je ne crois pas que quelqu'un pourrait avoir une preuve suffisante pour dire que les enfants ou l'enfant est à risque.
Okay.
Alors, c'est ça la réponse.
Bon, Mélanie qui dit, j'ai un enfant et mon conjoint en a trois autres en garde partagée. Ma mère vient nous rendre visite en respectant les règles de distanciation. La mère des trois autres enfants menace de ne plus laisser les enfants venir si ma mère vient m'aider à la maison. Est-ce qu'elle a raison?
Ça, c'est difficile, mais je ne sais pas pourquoi sa mère vient à la maison, parce que selon les consignes, on ne doit pas faire ça. Mais est-ce qu'il faut quand même faire une preuve que cette personne-là est contagieuse, par exemple, ou un risque quelconque, et qu'il y a un risque pour les enfants? Ce n'est pas juste la crainte qui est suffisante. Ça, c'est un cas où les gens doivent se parler et pouvoir échanger et que peut-être la mère qui reçoit sa mère peut rassurer aussi l'autre parent en disant, écoutez, on prend les mesures, voici qu'est-ce qui se passe. C'est ça la discussion, la communication, c'est échanger puis expliquer. Peut-être l'autre peut dire, bien, est-ce qu'on peut s'entendre que quand ta mère vient, elle se met pas à prendre le petit dans ses bras. Ça peut être des choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut se parler. Mais qu'est-ce qu'un tribunal décidera dans un cas comme ça? Il faut quand même prouver un certain risque.
OK. Bruno qui écrit « Mes enfants habitent chez leur mère depuis la fermeture des écoles. Est-ce que j'ai à payer la pension? »
Ça change rien. Une pension alimentaire est payable, peu importe où est-ce qu'on demeure et où est-ce que les enfants demeurent. Ça dépend, le montant peut être affecté. Est-ce qu'on a une garde pleine ou une garde partagée? Mais s'il n'y a pas de pension alimentaire payable, il y a un changement. Par exemple, mettons que j'étais en garde partagée puis je ne payais pas de pension alimentaire parce qu'on gagne les mêmes revenus. Et là, tout à coup, les enfants sont à temps plein chez l'autre parent. Bien, moi, ce que je conseille aux gens, allez sur le site Internet, calculez le montant de pension que vous devriez payer avec une garde unique à l'autre et versez de l'argent pour vos enfants. C'est pas compliqué. Et okay. Ça peut être le montant du gouvernement, ça peut être un autre montant, mais payer pour vos enfants. S'ils sont en train de... S'ils mangent puis ils vivent à temps plein chez l'autre parent, c'est ce qui doit être fait. On est responsable pour nos enfants, là.
Patrice qui nous écrit, est-ce que la partie qui garde les enfants durant cette crise pourrait, si cette crise perdure dans le temps, demander une augmentation de la pension alimentaire?
Oui. Pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est possible, dépendamment le temps qu'ils ont les enfants. Est-ce qu'ils vont le faire maintenant? Non. Est-ce que c'est possible de demander par la suite, une fois que la crise est terminée, de demander une pension alimentaire pour cette période-là rétroactivement? Ma réponse est oui.
OK. Une dernière, Stéphanie. J'ai des enfants en garde partagée. Leur père s'est fait une nouvelle copine et les deux ne respectent pas les mesures de confinement et font des soupers de famille. Est-ce que je peux garder les enfants avec moi?
S'il y a un jugement, on doit respecter le jugement. Dans un cas comme ça, je conseille à la personne de vraiment consulter un avocat, puis, parce que qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est des informations, c'est pas une consultation. Alors, la personne devrait peut-être consulter un avocat avec plus de détails sur qu'est-ce qui se passe. Et sinon, à ce moment-là, c'est possible de s'adresser au tribunal pour demander si l'autre partie ne respecte pas les consignes avec la nouvelle conjointe et que tout le monde un peu fait qu'est-ce qu'ils veulent sans tenir compte de qu'est-ce qui se passe. C'est un motif pour aller à la cour, mais je conseille à cette personne-là de consulter un avocat pour avoir une vraie consultation avec toutes les données.
Maître Sylvie Schirme, avocate spécialisée en droit de la famille. Merci beaucoup, Sylvie.
Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Si je peux aider, ça me fait plaisir.
Ben, tu nous aides. À la prochaine.
Okay. Bye-bye.
Bye-bye. Dans un instant, l'ancien joueur du Canadien, Nicolas Deslauriers, qui joue maintenant avec les Ducks d'Anaheim, qui est rentré précipitamment au Québec. Il va venir nous raconter sa virée. C'est quelque chose dans un instant.